Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi tant de mystères? Un texte de Sylvia Galipeau paru le 6 août dans la presse. Sylvia Galipeau a rencontré Mindy Pollack, la première élue de la métropole issue de la communauté hassidique. Elle est en politique depuis près de 10 ans. Élue à seulement 24 ans, Mindy Pollack a fait l'histoire moins pour son âge que pour son sexe et, surtout, sa religion. Première femme hassidique en politique à Montréal, au Canada, voire au monde. On en sait toujours bien peu sur cette femme singulière, son parcours, sa réalité et surtout sa communauté. Première surprise. Elle accepte avec intérêt notre demande d'entretien, quoiqu'après plusieurs tentatives infructueuses pour la joindre. C'est une femme occupée et ça paraît. Si elle ne nous accorde d'abord que 30 petites minutes, nous réussissons à lui soutirer près de 2 heures de généreuse conversation alors que nous sommes attablés à la terrasse du restaurant La Notte, rue Monklin, rare adresse cachère avec terrasse extérieure à Montréal. Si elle a fait quelques apparitions dans les médias lors de sa première élection en novembre 2013, dont une mention notable dans le quotidien israélien Haaretz, Mindy Pollack est quasi invisible depuis. Maintenant, je suis sous le radar. Pourquoi? Je ne sais pas. On travaille, rit-elle en se commandant un café glacé qu'elle sirote à la paille tout le long de l'entretien. Coquette, légèrement maquillée malgré ses bras couverts en cette journée caniculaire, on oublie rapidement qu'on a devant nous notre toute première femme hassidique en entrevue à vie. C'est qu'elle est étrangement accessible. « On se tutoie ?» propose-t-elle. « On mesure notre chance. On ne saura pas tout, mais tout de même beaucoup. » Âgée de 34 ans, divorcée. Mais oui, les gens sont toujours surpris quand je dis ça. Mindy Pollack est née ici d'une mère londonienne et d'un père montréalais comme elle. Ses grands-parents paternels, rescapés de l'Holocauste, sont originaires de Roumanie. Elle a grandi rue Hutchison dans une famille de 5 enfants et vit toujours dans la même maison familiale au 3e étage au-dessus de ses parents. Non, elle n'a pas d'enfant, encore, mais la trentenaire célibataire n'a pas dit son dernier mot. Un jour, peut-être. Après des études secondaires dans une école de filles de la rue du Charme, où elle a appris ce français qu'elle maîtrise si bien, elle suit une formation d'esthéticienne, métier qu'elle a beaucoup aimé jusqu'à ce qu'elle brise tout un plafond de verre, soyons francs, quoiqu'un peu malgré elle et à son grand étonnement. « Oui, sourit-elle de plus belle, mais par accident, ce n'était pas mon intention du tout. Une chose est arrivée et puis une autre, puis je me suis retrouvée en élection. » On se souvient qu'elle s'est d'abord impliquée dans les Amis de la rue Hutchison à l'invitation d'une voisine d'origine palestinienne et depuis amie, Laila Marchi, groupe à ce jour toujours actif. Cette implication communautaire, à une époque où les tensions dans le quartier étaient à leur comble, pour une histoire d'agrandissement de synagogue, souvenez-vous, lui a permis de se faire remarquer jusqu'à se faire recruter par un parti politique, Projet Montréal. Mais je ne pensais jamais faire ça. Et puis je me suis dit, j'ai l'occasion de faire une différence. Comment dire non? Se souvient Mindy Pollack. Si vous voulez tout savoir, non, Mindy Pollack n'a pas eu besoin de l'approbation de son père pour se lancer. Mais non, sourit-elle, ça ne marche pas comme ça, j'étais une adulte. 10 ans plus tard, la voix l'a toujours bien en selle comme conseillère d'arrondissement du district Claude Ryan dans l'arrondissement d'Outremont. Une rare femme juive et hassidique à faire de la politique, outre une juge à Brooklyn et une mairesse en Israël, sauf erreur, Mindy Pollack, avec son compte Instagram bien actif, demeure bien unique en son genre. Tant mieux si je peux inspirer du monde, mais ce n'est pas ce que j'essaye de faire. J'essaye de donner une voix aux gens qui n'en ont pas, résume-t-elle. Et avec les années, elle a fait du chemin. En fait foi ce nouveau lien de confiance entre juifs hassidiques et élus, se félicite-t-elle, et surtout cette sensibilité, grandissante face à une réalité, des festivités, horaires à respecter, etc., toutes particulières. Vous écoutez « Pourquoi tant de mystères ?» un texte de Sylvia Galipo paru le 6 août 2023 dans la presse. Parlons-en justement. Pourquoi, malgré tout, cette impression de deux solitudes impénétrables, ose-t-on? On nous reproche d'être fermés, mais sinon on risque de disparaître, répond habilement notre interlocutrice. Il y a des parallèles à faire avec la langue et la culture québécoise vraiment intéressants. On n'y pense pas, mais les uns et les autres, nous voulons protéger notre langue et notre culture, avance celle qui milite par ailleurs pour une reconnaissance de ce qu'on a en commun plutôt que nos différences. Certes, mais pourquoi si peu d'échanges? Tout simplement une question de choix, dit-elle. C'est un mode de vie qu'on choisit. Pourquoi on aurait moins de droits? Oui, les hommes portent des costumes bizarres, paraphrase-t-elle. Oui, les femmes s'habillent modestement et couvrent leurs cheveux. Et alors? Ce sont des choix personnels. On est tous des individus. On a le droit de s'exprimer, de s'habiller et de pratiquer comme on veut. Mindy Pollack ne cache pas ici son exaspération devant le portrait stéréotypé des Juifs hassidiques perpétué par la culture populaire. Qu'on pense à la série « Unorthodoxe » en 2020 ou au film québécois « Félix et Meira » en 2014, qu'elle a vu. C'est toujours l'histoire de quelqu'un de mécontent qui quitte la communauté, déplore-t-elle. On met toujours l'accent sur la pauvre femme qui ne connaît rien, puis qui s'ouvre au monde. Moi, j'en ai vu des films, j'ai lu des livres, mais on ne montre jamais ça. Tiens, Mindy Pollack se considère-t-elle comme féministe? Énième surprise. Je dirais que oui, mais ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Non, elle n'ira pas brûler sa brassière, nuance-t-elle, mais elle défend l'équité. Et ici, au Québec, les femmes gagnent encore moins que les hommes. Ça reste à faire. Notre entretien tire à sa fin. On ne peut pas s'empêcher de se demander si son rôle public si inusité ne nuit pas un brin à sa vie privée et à ses rêves avoués de bébé. En un mot, est-ce plus dur pour une femme de tête juive hassidique de surcroît de trouver l'âme sœur? C'est une très bonne question, répond Mindy Pollack. Je suis une femme religieuse et pratiquante dans le monde municipal. C'est très public et très « out of the box ». Ça va me prendre quelqu'un d'out of the box aussi. Et est-ce que cela existe chez les Juifs hassidiques? Je dirais que oui. Mais ils sont souvent déjà mariés, conclut-elle, d'une énième déclaration aussi parlante que déconcertante. Questionnaire estival. À quoi ressemble votre été idéal? Ça se résume en quatre mots. Relaxation, famille, plage, livre. Le dernier livre que vous avez lu? Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors c'est Anne of Green Gables, en BD. Les gens que vous aimeriez réunir à table, morts ou vivants? Je n'ai jamais connu mes grands-pères, morts avant ma naissance et quand j'étais toute jeune. Mon grand-père paternel était notaire en Europe de l'Est. Il a été greffier dans son village. Ce serait intéressant de partager nos expériences dans le monde municipal. Et puis, il a eu une femme et des enfants tués à Auschwitz avant de se remarier. J'aimerais tellement lui parler de cette vie d'avant. Une personne qui vous inspire? La reine Esther, une femme juive dans un monde non-juif, et ma mère. Votre endroit préféré dans le monde? Londres, parce que ma mère vient de là, et Venise, où j'ai passé 48 heures et où j'aimerais retourner. Qui est Mindy Pollack? Conseillère d'arrondissement du district Claude Ryan dans Outremont, sous la bannière de Projet Montréal. Elle est membre de plusieurs commissions, notamment la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise. Élue pour la première fois en 2013, on dit qu'elle est la première femme juive hassidique en politique municipale à Montréal. Elle a cofondé avec Laila Marchi les Amis de la rue Hutchison en 2011, groupe citoyen visant à rétablir des ponts dans leur quartier. C'était Pourquoi tant de mystères ? Un texte de Sylvia Galipo paru le 6 août dans la presse.
L'intelligence artificielle et son chômage technologique. Une chronique de Gérard Bérubé, parue le 3 août dans Le Devoir. Il est attendu que l'intelligence artificielle, IA, renforcée par sa dimension générative, vienne compenser la carence en gains de productivité dont souffrent les économies dites « avancées ». Son impact sur l'emploi fait toutefois encore débat, quoique de plus en plus d'analystes concluent à de lourdes pertes transitoires. Accroissement de la productivité et augmentation de la prospérité vont-ils de pair? Au cours d'une table ronde d'analystes d'Oxford Economics, organisée à Londres au bénéfice de leurs clients, il a été rappelé que les économies avancées sont en panne de croissance de la productivité depuis la crise financière de 2008. Cette panne ayant été amplifiée notamment par les chocs provoqués par la pandémie et la hausse des prix de l'énergie. Le tout étant exacerbé par une réalité démographique suggérant que la croissance de l'offre de travail pourrait tomber à zéro dans ces économies quelque part entre 2030 et 2040, contre une croissance annuelle de 0,4% présentement. Pour les analystes d'Oxford, une productivité alimentée par la technologie ne peut être que bienvenue. Et avec l'IA générative, on ne parle plus de robotisation et d'impact sur l'emploi répétitif. On entre aussi de plein fouet dans l'univers de la création, voire de la conscience. Selon la firme Conseil McKinsey, l'IA générative pourrait accroître l'impact global de l'IA de 15% à 40%. OpenAI, développeur du robot conversationnel ChatGPT, calcule que 80% des emplois aux États-Unis seront touchés d'une façon ou d'une autre par l'IA générative et les réseaux neuronaux Large Language Models, LLM. Dans son rapport sur le sujet, McKinsey estime que la moitié des activités professionnelles actuelles affrontera la réalité de l'automatisation d'ici 2060. Dans une étude récente, Goldman Sachs va plus loin, concentrant son regard sur l'Europe et les États-Unis. La banque d'affaires estime que si l'IA générative concrétise les promesses et le potentiel que ses développeurs y voient, les deux tiers des travailleurs européens et américains sont exposés à divers degrés à l'automatisation. Et qu'elle peut se substituer au quart des emplois actuels dans ces zones économiques. Par extrapolation, Goldman Sachs calcule que l'IA générative expose l'équivalent de 300 millions d'emplois à l'automatisation. Mais face aux pertes d'emplois, Oxford rappelle que l'histoire démontre la présence d'un effet de déplacement et de son contrepoids, l'effet de revenu. La production devenue à faible coût accroît le revenu réel disponible dans l'économie, ce qui se traduit par une demande accrue en biens et en services, favorisant la création d'emplois. L'effet net global n'est pas clair, mais on peut penser à un impact neutre. Goldman Sachs acquiesce. Ces emplois remplacés ou déplacés par l'automatisation sont généralement contrebalancés par la création de nouveaux métiers. Nous estimons que l'IA générative pourrait ajouter annuellement quelque 1,2 points de pourcentage à la croissance de la productivité sur une période de 10 ans en supposant une large adoption. Et à la longue, accroître le PIB global de 7% annuellement, calcule l'institution. Le cabinet d'experts comptables PwC ajoute que l'intégration de l'IA générative à des technologies similaires pourrait générer 3,3 points de croissance annuelle de la productivité. Chômeur transitoire? Dans l'intervalle, il est attendu que numérisation, robotisation, automatisation et intelligence artificielle provoqueront leur lot de chômeurs technologiques et soulèveront un problème criant d'employabilité, un phénomène qui risque d'être davantage ressenti dans le secteur des services et dans les métiers impliquant des tâches répétitives. On voudra donc qu'il soit en grande partie atténué par des programmes d'adaptation de la main-d'œuvre, de requalification et de perfectionnement des compétences. Quant aux fameux dividendes technologiques, il a été souligné lors du Forum économique de Davos en 2016 que la révolution industrielle 4.0 risque d'alimenter les tensions sociales, d'accentuer les inégalités, de polariser davantage la classe moyenne et d'exacerber les perturbations sur le marché du travail, élargissant le clivage entre les emplois qualifiés bien rémunérés et ceux qui sont peu ou pas qualifiés et faiblement rémunérés. Il faudra une régulation appropriée et des efforts en matière de formation, soulignent à large trait les analystes d'Oxford Economics. Dans un document de réflexion de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie adopté par le gouvernement du Québec en 2019, l'on craint que le déploiement de l'IA dans le monde du travail puisse éliminer plus d'emplois qu'il pourrait en créer. Mais à coup sûr, il va modifier le contenu et la nature des emplois. Ainsi, les travailleurs risquent de devoir développer de nouvelles compétences pour demeurer en emploi. On entrevoit également que son déploiement pourrait avoir pour effet indirect de modifier la relation d'emploi en favorisant le travail sur demande temporaire. Il est possible que le travail rémunéré comme institution de redistribution des richesses créées au sein de la société perde de son importance, soulevant ainsi des questions de justice distributive, lit-on. Ou encore, que certains individus aient de la difficulté à demeurer en emploi ou à en trouver un nouveau dans l'éventualité où ils seraient sans emploi, soulevant ainsi d'autres questions de justice distributive. L'introduction et le déploiement de l'IA dans le monde du travail soulèvent bon nombre d'enjeux de nature éthique, dont plusieurs concernent une potentielle hausse de la précarité et des inégalités socio-économiques. Parmi ces enjeux, la distribution des bénéfices et des risques liés aux effets que les technologies de l'IA et l'automatisation devraient avoir sur le monde du travail et sur l'emploi est considérée comme étant particulièrement préoccupante, a précisé la Commission dans une mise en ligne en juillet 2021. C'était « L'intelligence artificielle et son chômage technologique », une chronique de Gérard Bérubé, paru le 3 août dans Le Devoir.
Accueillir les insectes dans son jardin, un texte de Marjolaine Giroux, paru dans le magazine Quatre Temps, volume 46, numéro 2. Voulez-vous observer des lucioles dans votre cour arrière, des papillons dans vos plates-bandes et des coccinelles dans votre potager? C'est parti! Écoutez, observez, les insectes communiquent. Attirer les insectes dans son jardin, c'est découvrir leur fascinante diversité, mais c'est aussi observer leur mode de vie, souvent très particulier. On le sait, certains insectes, dont les criquets, les grillons et les sauterelles, chantent au cours des nuits d'été. Ces chants d'insectes, répétés à intervalles réguliers, sont produits par les mâles qui communiquent avec les femelles. Le plus souvent, ces insectes chanteurs se cachent dans des zones d'herbe haute. L'aménagement d'une zone d'herbe folle, composée de plantes ornementales et indigènes, permettra donc de les accueillir et de les écouter le soir venu. les lucioles mâles et femelles s'illuminent durant les chaudes soirées estivales. Leurs signaux luminescents attirent le sexe opposé. Chez plusieurs espèces, le mâle émet des clignotements lumineux en vol et est attiré par la réponse lumineuse de la femelle au sol. L'accouplement a lieu à la noirceur. Ainsi, pour favoriser la présence des lucioles dans son jardin, il est recommandé de ne pas l'éclairer et de choisir des plantes de différentes hauteurs. En outre, l'aménagement d'un petit jardin d'eau ajoutera un élément décoratif à votre milieu de vie tout en favorisant l'installation de ces insectes qui sont attirés par les milieux plus humides. Un petit monde diversifié et utile. Tout bon jardinier gagnera à accorder aux insectes et aux autres arthropodes l'importance et l'attention qu'ils méritent, car ces derniers lui rendent d'innombrables services. D'abord, les pollinisateurs, dont les abeilles, les guêpes, les bourdons, les papillons et les syrphes, qui butinent de fleur en fleur et assurent la production de fruits et de graines. Puis, les prédateurs et les parasitoïdes, très variés, qui sont des alliés contribuant à conserver l'équilibre des populations d'insectes indésirables. Enfin, certains insectes, dont plusieurs espèces de mouches et de coléoptères, accélèrent le processus de décomposition de la matière organique. Ils deviennent alors des acteurs importants qui collaborent à l'enrichissement des sols. Quelques règles à suivre. Sélectionnez d'abord des plantes nectarifères qui fleurissent à différents moments au cours des saisons. Ces plantes offrent nectar et pollen aux insectes pollinisateurs et nous permettent d'admirer ces insectes à l'œuvre du printemps à l'automne. Laissez croître des plantes indigènes. Vous pouvez, par exemple, limiter la tonte du gazon au cours de l'été ou sur certaines parcelles de terrain afin de voir fleurir les épervières, Hieracium spp et autres plantes estivales. Au début de l'automne, les astères, dont l'astère de Nouvelle-Angleterre, Symphyotrichum novae angliae et les verges d'or, Solidago spp, servent aussi de ressources alimentaires aux pollinisateurs tout en maintenant des plates-bandes colorées et variées. La plantation d'arbustes fruitiers favorise l'activité d'une multitude d'insectes tout en vous permettant de cueillir de petits fruits frais au cours de l'été. Enfin, laissez fleurir une partie de vos fines herbes, car plusieurs d'entre elles produisent des fleurs riches en nectar. Pensez aussi à créer des microclimats en occupant différents espaces et paliers. Les haies protègent du vent et créent des milieux isolés, tout en maintenant des conditions semi-ouvertes et non ombragées. Les murets de pierre avec leurs anfractuosités se réchauffent au soleil et constituent alors des abris pour les insectes actifs au sol, dont les carabes et les grillons. Souvenez-vous qu'un espace favorable accueille non seulement des plantes variées, mais aussi des plantes aux formes et aux hauteurs différentes. Par exemple, un mur enjolivé d'une plante grimpante constitue un refuge de choix pour une kyrielle d'insectes volants. Certaines de ces plantes, par exemple l'azarine grimpante, Azarina scandens, attirent les papillons et autres butineurs. Réserver des coins sauvages pour certains insectes est aussi une bonne idée. Par exemple, la terre battue, légèrement sablonneuse, accueille de nombreux insectes fouisseurs, dont des six indelles et des abeilles solitaires qui y font leur nid. Elles ne sont pas agressives et travaillent sans relâche. Quel plaisir de les observer s'activer quelques semaines, le temps de leur reproduction. Enfin, si votre espace est restreint, pourquoi ne pas installer des nichoirs à insectes dont la mise en place facilite l'implantation d'abeilles maçonnes, Osmia et Oblitis? Si la présence des insectes au jardin réserve parfois de bien belles surprises, elle est aussi essentielle à l'épanouissement et à l'équilibre de cet exceptionnel milieu de vie. Quand certains insectes pullulent. Bien que les insectes soient utiles à Dame Nature, il arrive souvent que le jardinier soit incommodé par certaines espèces dont la présence n'est pas toujours appréciée. Ainsi, le scarabée japonais, Popilia japonica, et la punaise marbrée, Haliomorpha alis, qui se nourrissent de nombreuses plantes, peuvent rapidement détruire le feuillage de nos plus belles plates-bandes. L'élément le plus important pour éviter une invasion d'insectes est de surveiller régulièrement ces plantes et ces aménagements. Il est beaucoup plus facile de contrôler les insectes ravageurs s'ils sont détectés dès le début d'une infestation. Idéalement, les plus gros insectes, comme les scarabées, les punaises et les chenilles, par exemple la pyrite du chou, sont cueillies à la main puis noyées dans de l'eau légèrement savonneuse. Pour éviter de les manipuler, on peut aussi les faire tomber directement dans l'eau à l'aide d'un bâtonnet. Cela évite de les écraser et permet d'en disposer plus aisément en les jetant au compost, par exemple. Si les insectes sont cachés dans les feuilles et les tiges, on peut les éliminer en détruisant les parties infestées de la plante. S'ils sont mous, comme les pucerons et les petites larves, on les affaiblit en les vaporisant d'une solution d'eau savonneuse tout en les écrasant simultanément avec les doigts. C'était « Accueillir les insectes dans son jardin », un texte de Marjolaine Giroux, paru dans le magazine Quatre Temps, volume 46, numéro 2.